Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Regardez aujourd'hui ce que nous avons. Nous avons un énorme monsieur patate.
Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens.
Moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, comme ça, nous a laissé de côté.
Nous sommes en guerre.
On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Nous sommes en guerre.
Eh bien, oui, eh bien, sur le front, le commandant Castex, le maréchal des logis Véran et, évidemment, le grand chef Macron sont là pour nous protéger. Peut-être, enfin on espère en tout cas. Mais en attendant, l'actualité, elle est là aussi. Et l'actualité, c'est aussi ce qui se passe sur le front médical. Pas seulement sur le front du Covid. Notamment, par exemple, une pédopsychiatre qui est condamnée, qui est interdite d'exercer après avoir signalé des maltraitances sur une enfant. C'est possible en France en 2021 ? Oui, c'est possible. Nous allons parler aussi, évidemment. Hier, nous recevions un médecin généraliste. Aujourd'hui, enfin, les médecins généralistes rentrent en scène. Pourquoi ? Comment ? Nous allons aussi évoquer Monsieur Patate, Madame Patate et leurs enfants Patate et les transgenres Patate, parce que le Patate, ça s'agrandit. Et ce n'est pas seulement les pommes de terre, mais aussi les pommes frites, et bien frites. Et puis nous allons recevoir le docteur Sylvie Guérineau. Le tourisme, le miroir aux alouettes. Et oui, on rêve tous de s'échapper. Mais pour quel voyage, pour quel tourisme ? On en parle tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Je suis pédopsychiatre. J'ai des témoignages et je reçois des témoignages assez durs et même très durs sur des maltraitances. J'en parle à une juge pour enfants. Eh bien, l'ordre des médecins me dit que je dois être interdit d'exercer pendant un temps. Vous dites, c'est pas possible ? Oui, c'est possible. C'est arrivé à une pédopsychiatre de Toulouse, le docteur Eugénie Izard. On en parle avec elle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
C'est police, bien sûr. Send me back an SOS. Envoyez-moi un SOS. Alors SOS, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que quand, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel statut, dans n'importe quel métier, quand on a quelqu'un de proche, quand j'ai dit de proche, un voisin et autre, quelqu'un dont on a connaissance et qui est en danger, bien, il faut rien faire. Il faut faire semblant de ne rien voir. Il faut se mettre l'autruche, la tête dans le sable. Et bien, ce n'est pas ce qu'a voulu faire et ce n'est pas ce qu'a fait. Le docteur Eugénie Izard, qui est pédopsychiatre. Bonjour, docteur Izard.
Bonjour.
Bonjour. On a évidemment, par Marie-Claire, vous aviez donné une interview et on a vu ce qui c'était. Je voulais absolument vous avoir pour essayer de comprendre comment il se fait que vous avez été condamné, effectivement, pour violation du secret professionnel d'abord, et 3 mois d'interdiction d'exercice de la médecine. Ça doit en fait prendre en principe effet, je sais que vous avez fait appel au Conseil d'État, le 1er avril. D'abord, racontez-nous, Eugénie Izard, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous exercez depuis 17 ans, je crois, votre profession à Toulouse, c'est bien ça ?
C'est ça, je suis pédopsychiatre en libéral et je travaille aussi en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.
D'accord.
Ce qu'on appelle les ITEP à Toulouse. Donc je m'occupe aussi de maltraitance depuis très longtemps.
Oui.
Je suis aussi présidente du REPA, du réseau de professionnels pour la protection, œuvrant pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Et donc, je m'occupe beaucoup d'enfants maltraités, oui. puisque voilà, je suis quand même assez spécialisée dans ce domaine. Il se trouve que ben, j'ai vu une enfant, j'ai fait un signalement comme il se doit au procureur et à la CRIP
spécialisée des maltraitances. C'était quand, c'était quand il a, pardon, il y a combien
donc,
de temps
c'est ça fin 2014.
D'accord.
Ce signalement-là ne m'est pas reproché puisqu'il a été fait dans les clous, entre guillemets, puisque c'était, j'ai bien signalé au CRIP, à la CRIP et au procureur. Mais il se trouve qu'ensuite, il y avait une mesure de sauvegarde sur cet enfant, c'est-à-dire que le juge des enfants est par la suite responsable du suivi et de la protection de ces enfants-là une fois qu'on les a signalés. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai envoyé un courrier d'information au juge des enfants, comme font tous mes collègues, comme c'est préconisé sur le site même du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, pour l'informer d'informations que j'avais nouvelles de danger de cet enfant. Et c'est ce courrier qui m'est reproché et pour lequel on dit que j'ai violé le secret professionnel alors que la loi sur la protection de l'enfance de 2007 accorde qu'on puisse échanger entre professionnels.
Attendez, docteur Isard, on ne va pas parler que de la loi, etc. Moi, je voudrais
savoir,
parlons un peu d'humanité, parce que la loi, je sais bien, et il faut expliquer tout ça, mais comment vous voyez, comment vous apercevez qu'un enfant est maltraité? Parlons de vous demander, comment ça, par exemple, en ce cas-là, ça s'est passé comment? Comment vous l'avez senti?
Après, moi, je ne souhaite pas parler de cette affaire, je vais parler de manière générale.
Oui, oui, absolument.
Un enfant maltraité, ça dépend de l'âge, hein, et donc les signes sont bien sûr différents entre un petit bébé, un enfant un peu plus grand ou un adolescent. La plupart des enfants que je vois sont en période de latence, donc ils s'expriment, hein, ils peuvent raconter ce qui leur est arrivé.
Non, mais l'enfant, sans donner des détails. Pardon, sans donner des détails sur le cas, mais encore une fois, mais pendant cette enfant avait quel âge?
Elle avait, on va dire, entre 7 et 10 ans. Donc,
ben
elle était en âge de parler.
Voilà. Non, parce que vous savez, c'est important d'incarner. Parce que sinon, on ne comprend pas et on est... Alors, comment... Alors, les signes de maltraitance, pardon, c'est important, parce que vous savez, nous, on ne sait pas. En revanche, on sait qu'il y a énormément de maltraitance d'enfants, hélas. C'est terrible. Les signes, on les voit quoi? C'est les signes physiques? C'est les signes, je dirais, de comportement? Ben,
déjà, ça dépend des maltraitances. Hein, si elles sont psychologiques, physiques, sexuelles... le premier signe, c'est quand même la parole de l'enfant, hein, c'est ce que l'enfant va raconter qui lui est arrivé.
Ouais.
Et ensuite, la plupart du temps, il y a des signes post-traumatiques associés, donc des syndromes post-traumatiques qui sont associés à cette parole, à cette révélation.
D'accord. Mais alors, comment il se fait que... Enfin, nous, comme ça, de l'extérieur, je ne suis ni pédopsychiatre, ni médecin, ni autre. Mais comment il se fait que quand vous faites, à mon avis, ce qui est l'essentiel, non seulement de votre métier, mais de tout être humain, je crois, enfin, de tout citoyen, en tout cas, donc vous signalez cela, et comment il se fait qu'on peut arriver à ce que l'ordre des médecins, vous condamne? C'est ça qui paraît totalement... plus qu'illogique, enfin, qui paraît totalement... surréaliste.
Eh ben, je suis dans la même interrogation que vous depuis 5 ans, parce que j'ai fait correctement mon travail. D'accord. D'ailleurs, on ne m'a jamais reproché ça, hein, on ne m'a jamais reproché non plus l'objectivité de ce que j'avais pu dire. En tout cas, je n'ai jamais été attaquée sur l'aspect tendancieux. Donc, ben, je ne comprends pas. Je suis dans la même interrogation que vous. Je fais un travail difficile. Je pense que voilà, tout le monde ne le fait pas. Et j'aurais plutôt droit aux honneurs qu'effectivement qu'à ce genre de cas infernal à vivre.
Alors, est-ce qu'on peut dire quand même qu'en l'occurrence, parce que vous l'avez dit, enfin, ça a été dit dans le dossier qu'Augustin Moriot a monté pour l'émission, que comme par hasard, c'est une fille de médecin ou un fils de médecin?
Bah, en l'occurrence, oui, le père était médecin, mais je ne sais même pas si c'est ça qui m'a
joué. D'accord.
Ouais, je sais pas, je suis pas dans la tête. En tout cas, voilà, le fait est là, et moi j'en suis là.
Et en fait, alors, il y a une chose que je ne comprends pas, là aussi, mais vous savez ça mieux que moi. Moi, quand on a entendu ça, j'ai dit, mais comment l'Ordre des médecins a eu un pouvoir exécutoire? C'est-à-dire que si l'Ordre des médecins condamne un médecin, alors, on le voit dans d'autres domaines, hein, pour des traitements aussi par rapport au Covid-19 et tout ça, l'Ordre des médecins a le droit, le pouvoir, d'empêcher un médecin d'exercer pendant X temps?
Tout à fait. Il a même le droit d'interdire définitivement l'exercice de la médecine à notre médecin. Ce sont des juridictions d'exception qui peuvent faire, du coup, loi à l'intérieur de notre juridiction, de notre état de droit.
Ah oui, oui, c'est quand même tout à fait étonnant parce que l'ordre des avocats, par exemple, n'a pas le droit de d'empêcher un avocat d'exercer. En tout cas, c'est pas par lui que ça se passe par la justice. Est-ce que vous avez vous avez réagi comment? Vous avez fait appel au Conseil d'État?
Oui, bien sûr, j'ai fait appel au Conseil d'État puisque j'ai je peux le faire au niveau juridique, donc je le fais. Oui. Et je fais appel aussi de ma suspension. Je demande une suspension de mon interdiction d'exercice dans l'attente que ce soit jugé définitivement, vu les préjudices pour mes patients qui risquent d'être irrattrapables.
Bien sûr. Et ça, c'est le Conseil d'État, pardon, là on revient vers le juridique, mais c'est important, c'est le Conseil d'État peut casser la décision de l'Ordre des médecins.
Oui, le Conseil d'État peut casser, et à ce moment-là, je serai à nouveau rejugée par la Chambre nationale de l'Ordre des médecins.
Ah, vous serez rejugée?
Par les mêmes.
Qui peuvent revenir en vous disant une fois de plus, non, c'est vrai, vous devez être interdit d'exercer. Ils peuvent le faire.
Oui, mais ils pourront, à mon avis, pas le faire sur les mêmes motifs juridiques s'ils ont déjà été cassés.
Je comprends. Est-ce que, par exemple, juste, vous avez pensé à aller vers la Cour européenne des droits de l'homme?
Alors ça, c'est en deuxième... Ça sera après la Cour, le Conseil d'État.
D'accord.
Et après le Conseil d'État, la Cour européenne.
Et alors, oui, et docteur Izard, est-ce que vous avez eu des témoignages, je suppose, enfin des témoignages, comment les gens ont réagi autour de vous, que ce soit vos patients ou les gens autour de vous, est-ce que comment les gens ont réagi en général, enfin, puisque ça dure depuis quelques années?
J'ai reçu énormément de soutien, les gens sont scandalisés, en plus la plupart des gens connaissent mon travail et voilà, ils apprécient ce que je fais pour les enfants. Donc les gens sont vraiment outrés d'une telle décision, hein, et qu'ils prennent aussi en partie contre eux. Hein.
Oui, non, bien sûr, mais c'est comme vous dites, on ne sait pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est vraiment une question de... Enfin, je veux dire, presque de stupeur, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. En fait, on a l'impression que si... vraiment, je vous donne ma réaction. Vous avez l'impression que si quelqu'un comme vous, ou toutes les personnes, hommes et femmes, qui exercent votre profession, si donc vous avez une preuve de maltraitance d'enfants ou de mineurs ou de jeunes, vous ne devez pas... En fait, c'est une incitation à ne rien dire, quoi, quelque part.
Alors... Moi, on ne me reproche pas d'avoir fait un signalement. On me reproche de l'avoir fait aux juges des enfants et pas au procureur ou à la CRIP. Donc, c'est plus subtil que ça.
Ouais.
Bien sûr que toute personne doit signaler les maltraitances et est couvert, a le droit de signaler des maltraitances à toutes les autorités judiciaires, administratives, médicales. Mais les médecins doivent le faire à la CRIP ou au procureur. Mais quand on est sur un premier signalement...
La CRIP, pardon, excusez-moi, c'est quoi la CRIP? Pardon,
la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil départemental.
D'accord.
De l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Donc, c'est une structure qui est là pour recueillir les signalements, ou le procureur. Mais
d'accord.
Après, quand il y a des mesures de sauvegarde, c'est là que je ne suis pas dans un contexte d'un premier signalement, il y avait déjà une mesure de sauvegarde, il y a le secret partagé entre professionnels autour d'une situation de danger.
Mmh.
Donc, bien sûr que toute personne doit signaler les maltraitances et est couverte pour ça.
Mmh. Oui, vous, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir envoyé un courrier au juge des enfants, c'est ça?
Dans un second temps.
Oui. On peut se demander, d'ailleurs, mais enfin, on peut se demander si effectivement le juge des enfants devrait être aussi qualifié pour recevoir effectivement un avertissement, enfin, une information de cet ordre.
Mais il l'est par la loi de 2007. Mais quand le juge des enfants, il n'est pas saisi au départ, donc c'est normal que la loi dise, vous devez signaler au procureur ou à la CRIP, puisqu'il n'y a pas de juge des enfants.
Oui, je comprends. Mais vous l'avez fait, de toute façon, vous l'avez fait.
Mais moi, il était nommé, donc je l'ai fait dans un second temps, oui.
D'accord. Et donc, maintenant, vous attendez... le Conseil d'État doit statuer quand pour vous,
Alors, je n'ai aucune idée des délais pour le jugement définitif. Et par rapport à la suspension non interdiction d'exercer, il faut que ce soit avant le 1er avril.
Ouais. Et est-ce que quelqu'un a porté plainte contre vous? Parce que c'est parti d'une plainte, j'imagine.
Oui, c'est le père qui a porté plainte au, au Conseil de l'Ordre, oui.
D'accord, et donc qui a provoqué la réaction de ce Conseil de l'Ordre, c'est ça?
Voilà, et après le père a retiré sa plainte.
Ah bon? Le père a retiré sa plainte?
Oui, je n'ai pas de plaignant, j'ai deux plaintes sans plaignant. J'ai eu deux plaintes du Conseil de l'Ordre successives sans plaignant.
Attendez, oui, ça c'est encore une information, ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, les plaintes ont été retirées? Non.
Les plaintes des je n'ai aucune plainte de plaignant à l'heure actuelle.
Oui, c'est ça. Mais
je n'ai que le Conseil de l'Ordre qui me poursuit.
Oui, non, mais c'est quand même, enfin moi, c'est une histoire quand même très très étonnante que le Conseil de l'Ordre continue à justement non seulement à sanctionner, mais à faire à opérer, à acter la sanction alors que vous n'avez plus de plainte. Enfin, c'est.
Mais tout à fait, c'est d'ailleurs tout à fait inédit. La plupart, quand les plaignants se retirent ou qu'on fait en conciliation la plupart du temps, oui. Le Conseil de l'Ordre ne poursuit pas les médecins, puisqu'il y a eu une conciliation, tout le monde s'est mis d'accord. Donc, ils ne sont pas poursuivis la plupart du temps, les médecins. Moi, je suis poursuivie dans les deux. J'ai été poursuivie pour deux plaintes sans plaignant à la fin.
Oui, c'est quand même assez hallucinant. Merci, docteur Izard. Écoutez, j'espère que vous serez effectivement, vous sortirez de là par le haut, ce qui me paraît la moindre des choses. Et on se demande quelquefois si un certain ordre des médecins, ce n'est pas un certain désordre des médecins, on pourrait vraiment en parler. Merci encore.
Merci, docteur Izard, de votre témoignage. Vous pouvez retrouver une interview écrite sur Marie-Claire, mais aussi cette interview, si vous êtes arrivé en cours de route, sur YouTube. Et puis, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Enfin, Castex vint et nous dit oui, pas de confinement, mais observation, mais durcissement de l'observation. Nous sommes tous sous surveillance et oui, mais c'est pour notre bien, ne l'oubliez jamais. Des Hauts-de-France aux Alpes-Maritimes en passant par l'Île-de-France et plus si affinité du côté de l'Est, nous sommes effectivement en observation. Tous en observation. Mais il y a un retour, on va vous en parler tout de suite.
Sud Radio, André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
C'est trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. C'est trop tard, trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Dick Angarn, vous exagérez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La preuve, le Premier ministre Jean Castex, hier, dans son homélie, dans son sermon sur les montagnes, nous dit quoi? Écoutez ce qu'il nous dit.
Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, soit un objectif de 2,4 millions de personnes.
Miracolo, au bout d'un an, l'entrée en scène des médecins généralistes. Mesdames et messieurs, applaudissez. Mais où ils étaient, ces médecins généralistes et ces pharmaciens? Mais ils étaient là pourtant. Oui, mais on leur disait, écoutez, hein, c'est pas maintenant votre cas. Nous avons le conseil scientifique, tout ça. Nous nous occupons de tout. Et vous, patients français, les 67 millions, restez chez vous, prenez du Doliprane ou du paracétamol. Et si ça ne va pas, et vous attendez vraiment que ça n'aille pas du tout, vous appelez le 15. Voilà. Donc les médecins généralistes, oui, eh ben voilà. Castex les appelle, les convie. Ah, c'est pas beau ça. Et ça rappelle quand même que hier, hein, dans notre émission, on recevait un médecin généraliste, le docteur Thierry Lagrange. Et voici ce qu'il nous disait.
Moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, comme ça, nous a laissé de côté, n'a pas parlé de... Presque à un moment donné, au début, il ne fallait pas aller voir le médecin généraliste.
Oui,
Et
oui, voilà. Au début, il ne fallait pas voir le médecin généraliste. Hein. Maintenant, on les convie. Allez, entrez en scène, mais pourquoi pour les vaccins? Ah bon, est-ce qu'ils n'auraient pas pu peut-être traiter aussi, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, parce que les médecins n'oublient pas leur serment d'Hippocrate. Les médecins traitants sont là pour traiter. Mais non, il ne fallait rien faire. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. On attendait le vaccin, il est venu, bien, alléluia. Mais enfin, quand même,
il y a quelque chose d'assez bizarre qu'au bout d'un an, on parle enfin de médecin généraliste. Mais comment l'esprit vient aux jeunes filles et comment la sagesse vient au Premier ministre.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Junior Vendo, One Punch Man, hein, les patates, les patates. Alors vous dites, pourquoi vous parlez de patates? Non, non, je ne vais pas vous donner une recette de cuisine, je vous assure, ni une recette de steak frites, non, non. C'est pas ça. C'est que, attention, vous savez, vous avez tous vécu, des générations entières ont vécu avec monsieur et madame patate, hein, qu'on habillait, qu'on décorait, en garçon, en fille, en tout ce qu'on voulait. Eh bien, c'est fini. Monsieur et madame patate, c'est fini. C'est sexiste. C'est sexiste. Pourquoi, monsieur et madame? Encore une fois, voilà, c'est encore du genrophobe. Voilà, vous séparez, monsieur et madame? Non, non, non. Eh bien, monsieur patate va devenir tête de patate. Eh oui, tête de patate, comme ça, ça peut être... ouais, ça peut être quoi? Ça peut être un pangolin, hein, ça peut être une chauve-souris. Pangolin patate et chauve-souris patate, ça peut être tout. Et alors, que devient le couple de monsieur et madame patate? Mais oh, que je vous racontais, il n'y a plus de couple, hein, ça va pas, monsieur et madame, un couple hétéro, non, non, mais vous plaisantez, non, non. Ça deviendra la famille patate. Et d'ailleurs, la marque Hasbro, on a regardé ça... Augustin Morio l'a regardé et il a vu que le conseil d'administration de la marque Hasbro, qui, comme vous le savez, produit patate, c'est 80% d'hommes. Ah, il va y avoir du boulot, là, hein, monsieur et madame Hasbro, là. Faut arrêter, là. C'est maintenant, ça va être tête de Hasbro et la famille Hasbro et la parité et même la marité, s'il vous plaît. Voilà, voilà où on en est. Vous voyez, on fera une rubrique tous les jours, comment la novlangue s'installe, non seulement dans les consciences, non seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans les neurones. Et c'est quand même assez préoccupant.
Des neurones aux allures de patate, est-ce qu'on pense que la famille patate partira en vacances? Ben on n'en sait pas, mais on va parler de tourisme tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et tout de suite, André Berkov reçoit le docteur Sylvie Guérineau, donc qui est biologiste, mais qui vient aujourd'hui pour un grand livre, un beau livre, avec de très belles images, Tourisme, le miroir aux alouettes.
Bonjour Sylvie Guérineau.
Bonjour Monsieur Berkov.
Bonjour docteur. Écoutez, j'ai reçu votre livre et c'est un livre remarquablement, non seulement remarquablement fait, mais un très très beau livre avec des images, des illustrations. C'est un livre vraiment... que je recommande, et non seulement que je recommande, mais que vous pouvez garder dans votre salon, sur votre table de chevet, mais surtout vraiment le faire circuler. Parce que vous racontez quelque chose dont on parle assez peu, Sylvie Guérineau, c'est le tourisme. Oui, le tourisme, on en parle, sociologie du tourisme en général, on fait des statistiques, effectivement, et il y a, vous en parlez vous-même, vous savez qu'on en est... à un milliard, pratiquement un milliard de touristes dans le monde. Le tourisme est devenu l'une des principales industries, d'ailleurs qui fait vivre beaucoup de pays, on le sait, qui seraient mal lotis sans cela. Mais vous, ce que vous avez fait, c'est une approche holistique au sens de total, aussi bien biologique qu'environnemental, qu'économique et que surtout humaniste. Qu'est-ce que c'est que le tourisme? Alors, première question que je voulais vous poser, docteur Sylvie Guérineau, qu'est-ce que c'est que le tourisme par rapport au voyage? Le voyage et l'immigration ont toujours existé. Comment définir le tourisme?
Ah, donc, au risque de fâcher certaines personnes...
Mais allez-y, on est là pour ça.
Je dirais que le tourisme est programmé par les États pour faire bouger certaines personnes. D'abord, ce sont des personnes en stress qui travaillent toute l'année comme des fous et qui vont aller se défouler, bon, mais dans des contrées au fin fond de l'Afrique, sur l'île Rodrigues, donc dans les Mascareignes ou autres, et qui vont alimenter, si vous voulez, un certain néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on a donné une pseudo-indépendance à nos colonies dans les années 60-70, mais on avait gardé des territoires. Et sur ces territoires, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à monter des hôtels et à recevoir du tourisme. Mmh. Donc évidemment, on a aidé les gens financièrement.
Ben oui, quand même. On vous entend mal, Sylvie Guérineau. Rapprochez-vous du... Oui.
Ah d'accord.
Oui, allez-y, là c'est mieux.
Voilà. Donc, d'accord. Donc, on a verrouillé tous ces pays par des prêts, des microcrédits ou des crédits avec de grandes structures comme l'OMT, comme le PNUD, qui est le programme national quand même des Nations Unies. Mmh. Et de ce fait, après, ben, on a investi les territoires en disant « Ah, mais il faut sauver la nature ». Ah oui, parce que les populations locales, ben, elles savent pas faire. Elles savent pas faire, ils sont ignares, ce sont des anciens esclaves. Enfin, vous voyez l'image catastrophique qu'on a montrée. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Des parcs, on a fait des réserves intégrales. Seulement pour faire ça, eh bien, il fallait dire on va avoir de la clientèle. Donc, d'un côté, on appâtait les gens pour avoir de la clientèle. Mmh. Et de l'autre, on continuait à faire main basse sur les territoires, WWF et autres, qui ne se gênaient pas pour prendre des populations, des tribus, mmh. et carrément les délocaliser. Hein, ils ont mmh. assoiffé les Bushmen, hein, je ne suis pas le seul auteur à en
les
parler.
Les Bushmen en Australie, vous parlez de l'Australie?
Allô, oui. Je parle de l'Australie, mais je parle aussi de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, hein, les hommes de la brousse.
Mmh. D'accord.
Donc on les a complètement délocalisés, on a fait une réserve intégrale. Mmh. C'est magnifique, une réserve intégrale. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, petit à petit, on a fermé leur puits. Donc là, ils n'avaient plus le choix que de se délocaliser. Mmh. Et une fois que tout ça, ça a été fait, ben, on a rouvert une partie de la réserve intégrale pour faire des lodges de chasse, puisque le gibier était revenu, pendant que les hommes mouraient de soif. Mmh. Voilà. Et ça, les gens ne le voient pas hein, quand ils font. Donc ça, c'est un tourisme de chasse très particulier. Mais il y a oui. d'autres endroits du monde, ne serait-ce que chez nous. Hein. Chez nous, sur le bassin d'Arcachon, oui. Il faut quand même dire que les prix ont tellement flambé en l'espace d'une vingtaine d'années que mmh. les enfants ne peuvent plus se loger sur le bassin. Ils sont obligés de rentrer dans les terres, hein. mmh. Salles, Mios ou même encore plus profondément. Pourquoi oui. Parce que en attirant bon, ben, le tourisme, il y a eu des flambées des prix. C'est beau, c'est la côte, c'est ceci, c'est cela. Mmh. Donc on déstructure des territoires. Et là, mmh. je parle de l'aspect humain, mais il y a aussi bon, mais tout l'aspect environnemental. Quand on fait des hôtels en bord de mer, quand on arrache les mangroves, c'est quelque chose de catastrophique parce que toutes les rivières bon, ben, se jettent directement dans les lagons avec les détritus et ça fait une pollution du lagon. Ça mmh. fait mourir les coraux et tout ce qui s'ensuit.
Mais alors justement, oui, docteur Sylvie Guérino, oui. justement, d'abord, peut-être qu'on ne va pas dire que tous les touristes et loin de là sont des néocoloniaux, c'est pas ce que vous avez dit, mais quand même, quelque part, non, je veux dire, quelque part, parce que le paradoxe, il est là, c'est vrai que ce que vous dites, il y a un vrai problème à la fois humain, environnemental, économique. Le vrai problème, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce tourisme-là, qui est maintenant un tourisme de masse que l'on connaît depuis des années, des décennies même, est-ce que ça n'aurait pas été pire pour, je parle, pour les populations autochtones, parce que ça aurait été livré à quoi? À l'extraction des terres rares, à l'extraction, si vous voulez, de matériaux, et ça aurait été peut-être un pillage, parce que certains touristes, et c'est un truc peut-être protège, parce qu'ils veulent voir de la nature, est-ce que ça n'aurait été pire, je parle entre deux mots, il faut choisir le moindre, d'avoir effectivement les rapaces de l'industrie mondialisante qui auraient effectivement transformé tout ce qu'ils pouvaient transformer en territoire d'exploitation. Est-ce que le tourisme, voilà, n'est pas un moindre mal?
Alors, un moindre mal. Dans les conditions où il est fait, je dirais non, c'est une catastrophe. Non. Mais disons par rapport aux structures, hein, les tour opérateurs, enfin, la manière dont il est fait actuellement.
C'est une catastrophe, pourquoi? Oui, allez-y. Oui, le vrai tourisme, oui.
Au niveau écologique, mais au niveau humain. Le vrai tourisme, comme on peut le connaître,
oui.
Dora Valaillé en a parlé, hein, c'était un membre de l'UNESCO qui avait fait l'association transverse. Hein. Mm-hmm. On peut avoir de petites structures. Il y a des tribus, que ce soit en Amazonie ou autre, qui, à petite dose, acceptent, mais ce sont des groupes de 4, 5, 6 personnes mmh. qui vont vraiment s'intégrer à la vie, qui vont bon, amener, ça va être un échange de culture. Échange de culture, bon, ben, nous, on a tout à y gagner parce que bon, on est dans une société complètement perdue. Mmh. Et je pense que c'est pour rééduquer l'homme blanc. Mmh. Ce que vous dites donc par rapport à ces pays, quand j'ai posé la question au recteur de l'université du Mali, que peut-on faire concrètement pour aider certains pays africains? Il m'a fait un grand sourire et il m'a dit « Laissez l'Afrique aux Africains ».
Oui. Enfin, moi, je rééduquais l'homme blanc, pardon, et... Sylvie Guérino, rééduquais l'homme blanc, oui. Mais l'Afrique aux Africains, vous savez, il y avait autant de corruption en Afrique qu'en Europe et ailleurs. C'est-à-dire que moi j'ai...
Ah oui,
j'ai, voilà, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce manichéisme du politiquement correct qui consiste à dire « Ah, c'était formidable, c'est magnifique, la nature, tout ça, et vous, les touristes occidentaux, vous venez la polluer ». Bien sûr qu'il y a ça, mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué que ça? Voilà ma question.
C'est plus compliqué que ça parce que c'est très politisé.
Oui.
Donc, pour terminer la première question que vous m'aviez posée,
oui.
Les mines de saphir continuent à exister. Mmh. Au Tibet, ils ont complètement des mines à ciel ouvert. Hein, c'était ouais. dénoncé par un géographe qui s'appelle Guébourg. Donc, ça n'a rien changé hein, au problème de la prédation. Au problème de ces prédateurs, ça n'a rien changé. Mmh. Bon, d'un autre côté, maintenant, tomber dans le manichéisme, c'est vrai que de toute façon, l'être humain, c'est l'être humain, quelle que soit sa couleur de peau. Hein, il va y avoir des gens très intéressés, d'autres
Exactement.
Non. Mais je ne pense pas, à mon sens, et ce que j'ai vu sur le territoire, je ne pense pas que la façon d'amener des groupes dans des ghettos, parce que quand oui, au Sénégal, on voit Sali Portugal, excusez-moi, mais c'est un ghetto, amener des groupes comme ça, de centaines de personnes dans des ghettos, faire le Paris-Dakar avec tous les touristes qui sont autour, traverser des villages, il y a eu des accidents terribles, personne n'en a parlé, hein, des morts d'enfants, des... Pourquoi vous pensez que quand vous allez sur le lac Rose au Sénégal, vous êtes bombardé de pierres? Non seulement il y a ça, mais il y a aussi le comportement des touristes. Hein. Il y en a qui sont très bien. Il y en a qui voudraient y croire. Donc,
on va en parler. On va
mais
en parler.
Oui,
docteur Sylvie Guérino, on va parler de tout ça. Juste, on a une petite interruption, enfin une pause, et on reprend avec vous. Justement, sur ce que doit être le tourisme. Et ça, c'est important.
Et je rappelle votre grand et beau livre, Tourisme, le miroir aux alouettes. Et puis, on se retrouve dans quelques instants avec André Berkoff. À tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Dans tous mes états et aussi avec le docteur Sylvie Guérino qui est très légitimement dans tous ses états par rapport à ce qui se passe effectivement. Et vous le dites très bien Sylvie Guérino dans votre excellent livre. Faut le dire, c'est que vous dites aussi, c'est très bien pour les écologistes, pour tout le monde, s'occuper de la biodiversité. Alors, on s'occupe de la biodiversité animale, de la biodiversité environnementale, agricole et autres, mais la biodiversité humaine. Et c'est là où votre livre prend vraiment un très grand sens, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour passer effectivement 15 jours dans un endroit, voir les paysages, voir les animaux, etc., et échanger des colis fichés, ou on est là pour apprendre quelque chose et prendre quelque chose, au bon sens du terme?
Voilà. Il faut bien que les gens prennent conscience que quand on les amène comme ça, ou quand maintenant ils réservent tout sur Internet, les acteurs du tourisme, comme quand on est guide ou autre, on paye pour être sur ces sites. Quand on fait partie, par exemple, d'un circuit de tour opérateur, le tour opérateur va prendre 10 à 20% de ce que nous, on peut gagner. Donc, il faut bien être conscient de ça. On ne va pas les amener vers le meilleur. On va les amener vers celui
le plus rentable.
Qui va être financièrement, le plus rentable. Pour moi, ça, c'est quelque chose à bannir. Pour moi, le tourisme, c'est d'abord, l'Europe a essayé de le dire, c'est d'abord quelque chose, une rencontre humaine. C'est une rencontre humaine. Quand on voit, alors je vais vous donner un exemple très concret qui m'a été donné. Il y a 2 semaines, là, je me promenais sur la plage et je rencontre des personnes âgées. On commence à discuter et ils me disent « Ah ben oui, on va d'habitude en bateau, donc on va tous les ans en Guadeloupe ou en Martinique. Bon, maintenant, on n'y va plus, crise sanitaire, etc. Bon, passons. » Mais ils me disaient « Pointe-à-Pitre, c'est dangereux. » Je dis « Comment ça, c'est dangereux, Pointe-à-Pitre ?» Enfin, je dis « Pourquoi ?» Il me dit, on faisait des courses sur le marché de Pointe-à-Pitre, donc c'est un marché où il y a beaucoup d'haïtiennes hein, qui vendent des fruits, légumes, etc., le marché du port. Une voiture de police s'est arrêtée, une blanche est sortie, une policière, et elle a dit, attention, faites attention à vos bijoux, cachez votre argent, vous risquez de vous faire attaquer. À quoi je réponds, mais vous étiez de nuit ? Ah mais non, 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 on était en plein jour. Voilà, ce que c'est. Donc on les met dans des bateaux, on les sort, mais il ne faut pas les sortir trop. Il ne faut surtout pas qu'ils rencontrent. Et pourquoi il ne faut pas qu'ils rencontrent les populations locales ? Quel serait l'échange ? Qu'est-ce qu'ils risqueraient d'apprendre ? Ou de ne pas apprendre, ou de conscientiser, on va dire, en rencontrant ces gens. Bon, personnellement, et tous les gens mais que j'ai connus, hein, qui amènent des petits groupes de tourisme, hein, comme Saint-Évasion, qui n'existe plus, mais le but, c'est de rencontrer d'autres cultures. Le but, c'est de rencontrer, par exemple, les tradis praticiens de Kermassar. Personne ne vous amènera les gens, les voir.
C'est où, Kermassar,
pardon ? On cuisine avec... Alors, Kermassar, c'est à 80 km en dessous de Dakar.
D'accord.
Ça a été fait, si vous voulez, en collaboration avec le docteur Yvette Parès, hein, qui était un chercheur à l'université de Dakar, une biologiste.
Oui.
Et donc, elle a fait, si vous voulez, elle a recensé certaines plantes en Afrique et on faisait des teintures mères, enfin ce qui sert à faire de l'homéopathie, des plantes pour soigner. Et elle a travaillé aussi sur les méthodes de ce qu'on appelle les tradis praticiens, donc les guérisseurs,
oui, les traditionnels,
vous appelez ça, il y a plusieurs, voilà. Et c'est merveilleux parce qu'il faut savoir souvent que au Sénégal, le ministre qui est malade, bon, il va d'abord à l'hôpital, évidemment. Mais très souvent, il finit chez le tradit praticien. Parce que c'est une autre dimension de la médecine.
C'est vrai, l'un n'empêchant pas l'autre quand même.
Enfin, voilà. Voilà, et il fait les deux. Mais je veux dire, voilà, on rencontre des gens quand on voyage, sac à dos ou autre, ou avec des petites structures. Hein. Les gens qui ont peur, ils peuvent prendre
Vous vous dites, le vrai tourisme, le bon tourisme, c'est celui des petites structures. C'est-à-dire, il ne faut pas être à 40 ou à 50, quart, on descend, on sort. Il faut prendre le temps, quoi, c'est ça.
Ouais. Il faut prendre le temps. Moi, je dis aux gens, en 10 jours, vous ne verrez rien. Restez chez vous, découvrez les Pyrénées, découvrez les Alpes, allez voir les bergers. En 10 jours, non, mais on ne peut pas. On ne peut pas rencontrer. Quand on se donne le luxe d'aller dans de telles destinations, il faut faire ou un cumul de congés ou prendre quelques mois sabbatiques. Ou, je ne sais pas, il doit y exister plusieurs formules dans la société actuelle. Mais il faut vraiment prendre le temps, prendre le temps. Comme me disent mes amis africains, il faut donner du temps au temps. On ne peut pas en 10 jours dire j'ai vu un pays. On va voir 3 éléphants, on va voir 2 crocodiles, on va passer un pont.
Ce qui disait un écrivain africain à un français, un écrivain français, il dit vous avez la montre, nous avons le temps.
Ouais.
C'est un peu ça.
Et le temps n'a pas de prix.
Le temps n'a pas de prix. Mais dites-moi justement, est-ce qu'il n'y a pas une double aliénation justement, Sylvie Rino, vous en parlez aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas l'aliénation aussi qui a consisté avec ce développement du tourisme, que les touristes sont là pour faire leurs emplettes et que pour les gens qui sont là, qui ont créé des marchés, le touriste est une espèce de machine à sous. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des deux côtés, comment casser aujourd'hui cette double aliénation du touriste occidental ou autre, d'ailleurs, ou chinois, ou japonais, ou asiatique, ou africain même, enfin, qui va quelque part. Est-ce que la marchandisation, est-ce que la marchandisation a triomphé, ou on peut encore s'y opposer, justement, par le nombre et par le temps ?
Alors, à mon sens, on peut s'y opposer. Je vais donner des exemples, encore une fois, concrets.
Oui, allez-y, c'est
très bien. Déjà, vous ne réservez pas par Internet, vous boycottez.
Ouais.
Et quand vous allez sur une destination, souvent, bon, c'est parce que ou on vous en a parlé, ou vous avez un ami qui y vit, ou vous avez des connaissances. Donc, ça vous fait un point de chute. Une fois que vous êtes au point de chute, après, ben, vous allez dans les toutes petites structures. Mais ces petites structures, on les découvre, ne serait-ce que chez nous au Pays Basque. Hein. On va en chambre d'hôte, et puis, par le bouche à oreille, comme ça, on dit, tiens, on va aller manger dans cette cidrerie qui est perdue au fond de la montagne. Bon, en Afrique, c'est pareil. Tiens, on va aller à la station du Djoudj. Qu'est-ce que c'est la station du Djoudj? C'est une station de biologie. Et comment je vais y aller? Ben, tu vas pas loin, 4x4. Tu vas prendre le taxi brousse. Parce que dans le taxi brousse, tu vas rencontrer des gens. Et le taxi brousse, on peut y monter à 4 ou 5. J'ai amené des amis. Alors, au début, elles étaient stressées parce que, bon, c'est vrai que c'est particulier, le taxi brousse. Mais on rencontre des gens, on parle. Tous les gens sont heureux qu'on leur parle parce que ce ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains. Bien sûr. Ils sont tellement heureux, comme nous on était quand ils viennent chez nous, qu'ils vous donnent mon... Et de fil en aiguille, comme ça, votre voyage, il se fait tout seul. Mmh. Et vous vous apercevez, en fait, que ce que vous aviez programmé au départ, ben, vous ne le suivez pas parce que bon, ben, vous passez sur d'autres routes.
Oui, ça,
c'est très bien. Et quand, quand vous avez des petites structures de tourisme, ça, c'est faisable parce que vous avez un guide pour 4 ou 5 personnes. Hein, et bon, mais vous dites, ah ben attends, là, j'ai rencontré un tel. Tiens, finalement, on va changer de route. Parce que vous n'êtes pas attendu par un hôtel qui va avoir le bakchich. Et tout est une question de bakchich. Hein. Quand on parle de... Bon, c'est vrai qu'on est un porte-monnaie à pattes hein, dans certains pays. Mais... Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, les gens ont été dressés comme ça. Je vais vous donner un exemple concret encore une fois. Bon, ben, j'avais une belle-sœur qui travaillait chez Clio, pour ne pas les nommer. Ouais. Donc, elle amenait des gens. Quand il fallait aller dans les pays musulmans, elle se voilait, etc. Mmh. Ce qui n'empêchait pas que quand elle amenait les gens, elle les amenait dans la boutique de monsieur, par exemple, dans la boutique d'Ahmed et pas dans la boutique de Mohamed. Pourquoi ? Parce que quand elle allait chez Ahmed, le guide avait le bakchich, elle avait le bakchich. Ouais. Si elle allait chez Mohamed, il n'y avait pas de bakchich. Donc, on ne les amenait pas. Donc, tout est faussé, mais à la base, du moment où vous mettez le pied dans l'autobus, voilà, c'est faussé. Maintenant, je ne critique pas non plus ce mode de déplacement parce que... J'ai eu, si vous voulez, dans des groupes, je me rappelle, sur Biscarrosse, on recevait des troisième âge, mais il y a longtemps de ça, c'était au début des années 2000. Et un jour, j'ai reçu un groupe, c'était des gens qui arrivaient du côté d'Agen, et la dame, à 80 ans, n'avait jamais vu l'océan. Et elle m'a dit, est-ce qu'on peut aller toucher l'océan ? Vous vous rendez compte, 80 ans. Donc ces gens-là, s'il n'y avait pas eu non plus ça pour ces gens-là,
bien sûr.
Donc c'était leur société de personnes âgées. Donc évidemment, je l'ai amené. Bon, j'ai mis tout le groupe en retard, mais c'est pas grave.
Mais c'est bien.
On s'en fiche.
Non, c'est pour ça qu'il y a aussi des avantages là. Mais ce que vous dites, et vous dites très bien, vous rappelez cette phrase de Gandhi, notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité constituera la beauté et le test de notre civilisation. Et vous le dites à la fin, je dis, vous demandez humblement, si vous voyagez, faites-le en pleine conscience, restez en accord avec vous-même, mais aussi avec la nature et avec vos hôtes, très important, et surtout demeurez sélectif quant à vos destinations et à vos choix. Juste, on arrive en fin d'émission, on aurait pu parler pendant des heures, mais Sylvie Guérino, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre ?
Alors, je suis en auto-édition.
Oui.
Parce que dans mon livre, il y a beaucoup de choses qui fâchent, on va dire. Tout est sourcé et vous pouvez m'envoyer un email et à ce moment-là, moi, je vous ferai parvenir mon livre.
Alors, donnez votre email à la radio que les auditeurs l'entendent. Et puis, on remettra nous sur notre site, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est sylvie.gue33, comme mon département.
Alors, sylvie.gue33, oui, comme le débat, oui.
gmail.com.
Alors, je répète, sylvie.gue33, comme le département, @gmail.com. C'est voilà. Ça. Merci Sylvie Guérino. Et puis, voyager intelligent et voyager humain, surtout.
Et on voyage toutes les semaines avec vous, André Bercoff, mais on va aussi voyager dans les musées tout de suite et dans la culture, dans tous ces états, avec Céline Alonso et André Bercoff, qui recevront notamment Louis Alliot.
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso.
Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins, laisse s'accomplir la magie.
Cézanne peint et laisse accomplir sa magie. Très belle chanson de France Gall, très bel hommage de France Gall à Cézanne. Et nous, heureux mortels ou pauvres mortels en ces temps de Covid, si on veut voir Cézanne et Picasso et Monet et Manet et tout le monde, où est-ce qu'on peut les voir ? Très bien qu'on n'a pas les moyens de les avoir sur nos murs. On a les moyens de les voir où ? Eh bien, on le sait, dans les musées. Dans les musées, c'est là où, effectivement, C'est une des endroits, il y a évidemment les galeries, mais ce sont dans les, c'est dans les musées que la culture s'installe, que la culture de l'art, la culture de, du voir, la culture du sentir s'installe. Et en ce moment, comme on sait, eh ben, les musées, comme tous les lieux de culture, sont fermés. Alors effectivement, Roselyne Bachelot, elle nous dit, nous préparons la réouverture des musées, des monuments le plus rapidement possible. Mais alors c'est quand à Pâques, à la Trinité, ou plus si affinité, c'est quand? Eh ben, on n'en sait rien. Alors il y a énormément de maires, 15 maires déjà, dont Christian Estrosi, David Burkley, Christophe Béchu et d'autres qui ont demandé dans une tribune publiée dans, au Figaro, la culture est en danger, rouvrons les théâtres, rouvrons les musées et les cinémas, surtout qu'on peut parfaitement appliquer les gestes barrières, on le sait parfaitement. Alors, on va pas revenir sur l'accès à la culture, etc., mais on va parler quand même de cette baisse de fréquentation en 2020 de 75%, les pertes de recettes qui sont élevées à des dizaines de millions d'euros. Avec l'absence de tourisme étranger, avec tout cela, enfin, tous les lieux de culture, les lieux d'art ont été impactés. Alors, on le dit bien sûr, et on comprend, oui, mais c'est pour mieux vous protéger, les enfants, mais enfin, pour mieux vous protéger, vraiment, et comment? Et surtout, ce qu'on a voulu faire dans cette émission aujourd'hui, c'est parler des musées, dire ce que c'est qu'un musée, on le sait, mais quand on sait que la moindre exposition attire des milliers de gens, que les grandes expositions attirent jusqu'à des millions de spectateurs, d'amateurs, au vrai sens du terme, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en parler.
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde.
Et vous imaginez à quel point elle se morfond, la Joconde, en ce moment? Non mais imaginez un peu l'angoisse de la Joconde seule dans le désert du musée du Louvre. Mais pas une ombre, heureusement, il y a le personnel de surveillance et d'hygiène qui est là. Mona Lisa, ça va finir, le calvaire va finir, je ne sais pas dans combien de temps. Mais Mona Lisa, on reviendra comme toujours vous voir du monde entier, bien sûr. Et puis voilà, et on se dit, c'est en berne et partout, hein, et partout, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg. Le monde est rempli de musées, et les musées, on a besoin des musées plus que jamais. C'est Malraux qui disait, le musée est le seul lieu du monde qui échappe à la mort.
Et oui, André Bercoff et Malraux qui a écrit Le musée imaginaire. Et oui, la culture, eh bien, c'est la vie en France. Les appels à la réouverture des lieux culturels se multiplient. Et selon un sondage IFOP Sud Radio, eh bien, 60% des Français sont favorables à une réouverture des musées. Alors, faut-il les réouvrir? On en débat aujourd'hui sur Sud Radio. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Louis Alliot, maire de Perpignan, et Foulque Daboville, directeur Île-de-France de Culture Espace, qui est un organisme donc, qui gère une douzaine de musées, de monuments historiques à travers la France. Bonjour à vous deux. Alors, Foulque Daboville, vous dirigez notamment les équipes du musée Jacquemart-André à Paris et les équipes de l'atelier des Lumières dans la capitale. Alors, ces lieux sont bien entendu donc fermés depuis fin octobre. Comment vous-même et vos équipes donc gérez cette situation?
Oui, et que ce soit d'ailleurs à Bordeaux aussi, pour rappeler à Aix-en-Provence, l'hôtel de Caumont et les bassins de lumière. Alors, comment ça se passe justement? Comment ça ne se passe pas d'ailleurs?
Oui, c'est plutôt ça. Comment ça ne se passe pas? On est effectivement dans cette situation de fermeture puis de réouverture depuis un an déjà quasiment. Oui. Ça a été extrêmement complexe pour nous de gérer tout cela. D'abord parce qu'il a fallu fermer tous ces sites, alors même au mois de mars dernier que la saison allait battre son plein, notamment à Paris avec l'ouverture de grandes expositions. On lançait au musée Jacquemart-André une grande exposition sur Turner, ouverte le 13 mars, fermée le 15. Et ensuite, eh bien, écoutez, on a eu cette succession de périodes de fermeture, de réouverture avec des restrictions et de refermeture maintenant depuis le mois d'octobre. Ça a été un travail assez considérable pour dialoguer avec nos prêteurs, notamment, oui. Puisque quand on possède des œuvres ou quand on se fait prêter des œuvres, évidemment, nous, il fallait qu'on puisse prolonger ces expositions. Et donc dialoguer avec des prêteurs pour négocier ses prêts, etc. Ça a été fait en bonne intelligence et relativement facilement avec tout le monde. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance de ce côté-là.
et les assurances et tout ça et tout le reste. Enfin, d'abord, à quoi vous montez comme ça, ça enfin, à quoi montez-vous par exemple les pertes, je veux dire par rapport
à combien estimez-vous les pertes aujourd'hui effectivement?
Oh ben les pertes elles sont absolument colossales hein, sur l'année 2020. Écoutez, on entend parler des chiffres de baisse de fréquentation de 60-70%. Mmh. On est dans ces eaux-là. Et les pertes financières en termes de chiffre d'affaires sont sensiblement les mêmes. Mmh. Donc c'est vraiment une situation économique, parce que les musées, le secteur culturel, c'est aussi un acteur économique. Donc c'est une situation qui est catastrophique pour tous nos établissements.
Et les pertes sont vraiment considérables, André Berkoff, il faut le rappeler, pour tous les musées de France. Par exemple, le Louvre a perdu plus de 90 millions d'euros de recettes, alors que l'aide de l'État atteint 46 millions d'euros. Vous-même, vous avez bénéficié d'un système d'aide ?
Non, alors Culture Espace est une société privée, hein, comme vous l'avez dit, qui gère une douzaine d'établissements, des musées, des monuments historiques, et qui crée ses propres centres d'art numérique. C'est une société privée, donc à ce titre, elle ne bénéficie pas de subventions. Dans ce contexte de crise, et comme toutes les entreprises privées, eh bien pour le coup, on a l'activité partielle. Donc ça, qui est un dispositif qu'il faut saluer, parce que...
Oui, le chômage partiel, enfin.
Le chômage partiel, oui. Parce que ça nous est très utile et ça nous permet de tenir. Alors, vous l'avez dit en introduction, hein, dans les musées, ils sont pas complètement morts non plus. Évidemment, il y a de la sécurité, il y a de la maintenance, il y a de l'entretien, il y a la production des futures expositions. Donc ce dispositif d'activité partielle, il nous est très utile, mais il n'est pas non plus complet.
Et oui. Alors nous allons donner tout de suite la parole à Louis Alliot qui nous a rejoint donc au standard de Sud Radio. Bonjour Louis Alliot. Alors le 9 février, vous avez réouvert 4 musées municipaux dans votre ville à Perpignan et ce malgré donc l'interdiction. Est-ce que vos administrés étaient au rendez-vous et heureux de l'être ? Racontez-nous comment ça s'est passé.
Ah oui, je dois dire que c'était une très très bonne surprise parce qu'ils sont venus en nombre. D'ailleurs, sur la même période par rapport à l'année dernière, on était très confinement. Il y a eu plus de monde qui ont fréquenté le musée que l'année dernière et, des gens qui étaient totalement libérés, qui venaient nous voir en disant « mais vraiment merci parce qu'on n'en peut plus ». Vraiment, ça avait un petit côté retour à une liberté qui est aujourd'hui espéré, mais qui malheureusement n'arrive toujours pas.
Alors justement, bonjour Louis Alliot.
Bonjour André Berkoff. Bonjour.
Justement, vous avez fait, moi j'ai trouvé que c'était très bien et d'autres maires devraient suivre, en tout cas certains ont suivi peut-être, mais vous avez rouvert 4 musées et effectivement la préfecture vous dit non, pas possible et vous avez été obligé, corrigez-moi si je me trompe, par le préfet ou la justice de suspendre la ouverture le 15 février. Donc vous avez eu quoi, une semaine, même pas une semaine d'ouverture?
Oui, ça a été le bon côté. La justice a été lente et n'a donné donc une date pour l'audience qu'une semaine après avoir pris la décision. Donc, on a eu une semaine de liberté et d'ouverture de ces musées avec un protocole adapté, particulier, etc. Et avec un certain nombre de choses qui sont toujours inexplicables. C'est-à-dire comment, et c'est là que le bât blesse, comment on peut tolérer dans un musée une boutique, c'est-à-dire un magasin, qui lui est autorisé à ouvrir, avec tout ce que vous pouvez imaginer dans une boutique de musée, comme carte postale, dessin.
Est-ce que les boutiques sont autorisées à ouvrir?
Oui, c'est-à-dire les commerces, André. Ouais.
Oui, mais j'ai compris.
La boutique du musée, qui est considérée comme un commerce, elle, à l'intérieur du musée,
oui, c'est ça
est ouverte.
C'est complètement paradoxal.
Et dites-moi...
Le musée, ouais. Non.
Mais dites-moi, Louis Alliot, en fait, on ne comprend pas très très bien pourquoi, et on en a parlé avec nos invités, on en parlera encore, au fond, vous avez vous-même, et puis tous les directeurs de musées, etc., les conservateurs, disent on peut appliquer les gestes barrières sans problème, les distances, etc., en limitant, enfin tout ça. Et ce qu'on ne comprend pas, en tout cas moi c'est une chose personnelle, je voudrais savoir pourquoi on accepte que les métros, les trains et les gares, et c'est très bien, sont remplis jusqu'à là, mais jusqu'à ras-bord, partout, et que les musées, par exemple, il n'y a pas que les musées, les théâtres aussi, etc., soient absolument ostracisés en disant « Non, là, il faut circuler, il n'y a rien à voir. »
Écoutez, alors il y a tout un train de réponses que nous n'arrivons pas à avoir. La réponse du général de l'État, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des études médicales qui le démontrent. Or, à ce jour, j'attends toujours de voir une étude médicale ou scientifique qui démontre que fréquenter un musée est plus dangereux que de rentrer dans le métro, par exemple. À mon avis, ça n'existe pas. Donc, effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne peut pas rentrer dans un musée. Surtout que le musée, par rapport à un magasin qui aujourd'hui est ouvert, à côté du musée Rigaud à Perpignan, il y a des boutiques ouvertes. C'est que vous pouvez, avec une inscription préalable, faire rentrer les gens en étant sûr de ne pas dépasser la jauge, de ne pas faire croiser les gens, d'avoir un sens de circulation à l'intérieur du musée, etc., etc. Bref, je veux dire, il n'y a pas un endroit plus sécurisé en termes sanitaires qu'une galerie d'art, d'ailleurs, ou un musée. Et d'ailleurs, chose intéressante, les musées sont interdits, mais les galeries d'art, non. Est-ce que vous le saviez ?
Oui, non.
Bien sûr. Les galeries d'art des musées, effectivement, peuvent,
les galeries d'art en dehors des musées, les galeries d'art privées sont ouvertes, ce qui est tout à fait paradoxal. Oui.
Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse à votre question. Je crois que les pouvoirs publics ont pris une mesure d'ordre général qui s'applique à tout le monde. Ouais. En même temps que les manèges, je ne sais pas. Non, les manèges sont ouverts aussi, mais que il n'y a pas d'explication scientifique à cette fermeture. Et tout à l'heure, M. Berkoff, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit dans les autres pays, en tout cas nous à côté, à 30 km de Perpignan,
l'Espagne,
c'est ouvert.
Les musées sont ouverts. Ouais.
Les théâtres sont ouverts. L'opéra de Barcelone est ouvert. Voilà, il y a une vie culturelle. Elle est contrainte. Elle est peut-être plus réservée que d'habitude, elle existe de la même manière que les restaurants sont ouverts le matin et de midi à 16h30, pas le soir. Bref, je veux dire, les Espagnols, ils ont une épidémie comme nous, ils ont les chiffres comme les nôtres, et pourtant ils appliquent des protocoles qui valent aussi les nôtres, mais ils donnent une plus grande liberté à leurs concitoyens, et c'est là quand même qu'en France aujourd'hui, je trouve qu'il y a un énorme problème lié à nos libertés publiques et je trouve qu'on contraint et on restreint un peu trop facilement nos libertés sur des considérations qui aujourd'hui m'échappent complètement parce que tout le monde est bien conscient que c'est dangereux. Mais enfin, j'espère que ça ne va pas être dangereux pour un siècle parce qu'on va finir sec dans nos bureaux. Hein.
Est-ce que vous avez fait appel de ce jugement, Louis Alliot ?
Oui. Alors, j'ai fait appel de ce jugement, mais il aura lieu dans un mois. D'ici là, j'espère que nous serons déconfinés et que les musées auront ouvert. Donc, il y aura une décision, mais on verra bien.
Pourquoi les maires ne se mettent-ils pas ensemble, enfin, les maires des grandes villes, etc., ou même des villes moyennes, bien sûr, se mettent pas ensemble pour faire un appel au gouvernement, au pouvoir, en disant, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça.
Les milieux culturels l'ont fait, le font en permanence. Nous, il y a des manifestations tous les samedis des milieux de la culture qui redemandent un peu à vivre. Les maires, certains maires l'ont fait. Je crois que l'Association des maires de France l'a fait, etc. Mais c'est toujours une fin de non-recevoir. Ouais. C'est Madame Bachelot qui dit « Oui, quand ça ira mieux, on pourra le faire. » Alors moi, je les ai pris au mot. Je comprends bien qu'à Nice, par exemple, la situation soit compliquée ou à Dunkerque. Nous, à Perpignan, enfin, dans les Pyrénées-Orientales, on a un indice, vous savez, le fameux indice.
Oui, le fameux indice, oui.
De 87, il est à 500.
Moins de 1. Voilà.
Donc, aujourd'hui, si on tenait compte du contexte local, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de nous dire, oui, finalement, dans les PO, vous avez de bons chiffres, eh bien, vous avez le droit d'ouvrir vos équipements culturels d'une manière limitée, dans le temps, avec les contrôles, tout ce qu'ils veulent, mais qu'on ouvre un tout petit peu quand même.
Alors justement, Louis Alliot, les maires de Bordeaux, de Lille et d'Aix-en-Provence ont proposé donc que leurs villes soient des villes test pour la réouverture des musées. Est-ce que pour Perpignan pourrait l'être aussi ?
Oui, bien sûr, mais vous allez voir qu'elles seront test une fois qu'on aura tout ouvert.
Oui, c'est ça, oui.
On est sur un agenda qui est assez curieux. Il y a 3 semaines, on nous parlait de confinement général. Puis, M. Macron a dit pas de confinement. Là, c'est des confinements locaux. Mais il y a plein d'endroits où on pourrait déconfiner, hein, petit à petit.
Ben,
et pourtant, ça ne se fait pas.
C'est, voilà. C'est tout le débat, absolument. Merci, Louis Alliot. Et effectivement, on pourrait se poser la question, Fulke d'Aboville, au fond. Il y a quelque chose qui est... Alors, on peut comprendre, évidemment, il y a toujours des raisons, mais on ne comprend pas cette espèce de généralisation. Moi, c'est ça qui me frappe, si vous voulez. On applique à tout le monde, à la France, au pays entier, quelque chose qu'on pourrait peut-être justement appliquer territorialement ou en fonction du niveau de danger de telle activité. Ce qui est étonnant, c'est qu'on fait un modèle unique pour une population, alors que on n'est pas dans un modèle unique.
Oui, absolument. Alors, pour nous, tout ce qui pourrait servir à rouvrir les lieux culturels est bon à prendre et pourrait être testé. Alors, s'il faut faire des villes, des territoires, tests, pourquoi pas ? Allons-y. Mais je crois que maintenant, il faut surtout sortir de cette espèce de situation dans laquelle on est plongé depuis des mois et des mois, et qui consiste à toujours... reculer les échéances, ne pas nous donner de perspective, considérer que c'est soumis à une décrue de l'épidémie, qu'on verra dans 15 jours, 3 semaines, et finalement, on n'a aucune perspective, ça nous pénalise très très fortement dans la préparation de nos futures expositions, hein, qui sont quand même des travaux de longue haleine. Donc là, je crois qu'absolument, il faut bouger maintenant. Mais je voudrais juste dire que je suis pas épidémiologiste, médecin, etc. Donc si la solution pour mettre fin à cette épidémie, si quelqu'un en a une, mais que c'était un confinement par exemple, confinons, mais changeons de posture ensuite. Voilà, à partir du moment...
Confinons pour un résultat final.
Mais bien sûr.
Confinons pour déconfiner et reconfiner. Quoi.
Bien sûr. Et à partir du moment où on dit il faut quand même que la vie économique se maintienne parce qu'on est dans une crise économique et sociale qui devient absolument dantesque, à partir du moment où on veut sortir de cette crise, on ouvre des commerces, on permet aux entreprises de travailler, mais pourquoi pas la culture ? Encore une fois, ce sont des acteurs économiques. Et je crois, il y a eu tout un débat sur la culture, est-ce que c'est essentiel, pas essentiel. Ben, je crois vraiment que quand on voit, il suffit d'écouter les infos tous les jours, quand on voit la crise sociale à laquelle on est confronté, eh bien les musées, les lieux de culture sont des endroits qu'il est urgent
et
de
psychologique,
rouler.
Et moral, et mental. Hein,
absolument.
Faut pas oublier, ça.
Absolument. Enfin, d'ailleurs, ça se double d'une crise d'identité. Et on sait qu'on a besoin de mettre à la disposition du grand public ces œuvres d'art, tout ce qui fait un peu le génie artistique et culturel de notre pays. Voilà. Et donc, on a absolument besoin de rouvrir maintenant.
Et oui, mais vous dialoguez quand même régulièrement avec les équipes de Roselyne Bachelot du ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément ?
Bah, écoutez, oui, il y a un dialogue très très régulier. La ministre de la Culture et ses équipes nous rassemblent tous les 15 jours à peu près pour faire un point sur la situation, pour travailler sur des protocoles sanitaires et discuter des conditions de la reprise. Mais la conclusion, c'est systématiquement que c'est soumis à la décrue de l'épidémie et donc qu'il faut se laisser encore X semaines pour pouvoir déclencher ce mouvement. C'est là qu'on a effectivement une vraie incompréhension sur ces reculs perpétuels.
Merci Louis Alliot d'être venu sur Sud Radio. Espérons que votre combat, en tout cas pour la réouverture des musées en France, porte ses fruits. En tout cas, on l'aura compris, l'art est essentiel. Il est, selon certains experts, le meilleur des antidépresseurs, et ce, effectivement, depuis toujours. Alors, quand, pourquoi et par qui les musées ont-ils été inventés ? Réponse dans un instant sur Sud Radio avec un très grand historien de l'art, Dominique Lobstein. Alors, à tout de suite.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers.
Voilà, Claude Nougaro qui rend à sa manière disons, un hommage un peu enfumé ou en fumette à, évidemment, à Édouard Manet, chef-d'œuvre d'Édouard Manet, grande peinture impressionniste et les impressionnistes. Quel très grand moment de l'histoire de l'art mondial. Puis, il s'était très français aussi. Berthe Morisot, Renoir, Degas, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Rodin, Monet, bien sûr, l'un des fondateurs. Et je crois, Céline, que de nombreux impressionnistes font partie des collections permanentes du musée Marmottan Monet de Paris.
Et oui, et la plus grande collection au monde d'œuvres de Monet, effectivement, est présente dans ce musée où Dominique Lalfstein, qui vient de nous rejoindre donc, sur Sud Radio, est actuellement, effectivement, donc, commissaire de la première exposition jamais consacrée en France à l'un des plus grands maîtres de la peinture danoise. Bonjour à vous, Dominique.
Bonjour.
Alors, cette exposition sur Peter Severin Kreuer, je vais y arriver, je le prononce bien, c'est pas évident. Eh bien, elle aurait dû commencer le 28 janvier. Comment avez-vous fait pour monter cette exposition en temps de Covid ? Ça doit pas être simple.
Ça n'a pas été simple, mais ça a été une preuve de la solidarité qui peut exister entre les musées. C'est-à-dire que pour faire une exposition, il faut apporter des œuvres à un endroit, il faut vérifier leur état, il faut les accrocher. Cette fois-ci, les gens ne pouvaient pas quitter leur pays pour accompagner les œuvres, ils ne pouvaient pas faire les états, ils ne pouvaient pas accrocher. Et donc, on a tout fait en visio. C'est-à-dire qu'on se promenait avec nos téléphones et on parlait toute la journée. D'abord, on rassurait les gens que les œuvres étaient bien arrivées, puisqu'elles avaient voyagé seules. Ensuite, eh bien, on leur montrait, là, je pense qu'il y a un soulèvement, là, ça ne va pas. Et puis, on a travaillé comme ça, et on a accroché, les gens ont vu où on accrochait leurs œuvres, comment elles allaient être sécurisées et tout. Finalement, ça s'est bien fait. Si ce n'est que les équipes, au bout de 8 jours, étaient sur les rotules, parce que c'est un boulot qu'on n'avait jamais imaginé auparavant.
Oui, c'est formidable. Miracle de la technologie et en même temps, miracle de la solidarité. Oui. C'est-à-dire, tout se passait par visioconférence, quoi.
Tout,
c'est
ça. Tout.
Et oui, le virtuel prend le pas sur la culture, André Berkoff. Alors, Dominique Lalfstein, vous êtes effectivement donc historien de l'art. Vous avez été aussi été documentaliste et responsable de la bibliothèque du Musée des Arts de Paris. En quoi, selon vous, fréquenter les musées est essentiel pour l'homme ?
C'est un rapport au beau, c'est une vieille... c'est quelque chose qui existe depuis tous les temps. Les musées sont une apparition relativement récente, mais avant même qu'ils n'existent, quand il n'y avait que des collections privées, déjà les gens demandaient à voir ces collections. Alors pour des raisons très variées, il fallait le faire, il fallait s'en inspirer, il y avait beaucoup de raisons. Mais je dirais que c'est la volonté qui a créé l'institution. C'est parce qu'on avait envie d'être en contact avec le beau le plus aisément possible que finalement les musées ont fini par émerger à partir de la fin du 15e, début du 16e siècle, mais pour prendre une vraie nature de musée au 18e.
Ah oui, c'est le 18e, parce qu'avant, c'était quoi ? C'est-à-dire, c'était pas les musées, mais c'était quoi ?
Alors, c'est d'abord pas les musées tels qu'on les imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit musée, on pense beaux-arts. Mais en fait, les musées, au départ, c'est plein de choses différentes. On a des animaux empaillés, on a des pierres, on a des médailles, on a des antiques. Et puis, accessoirement, on a des peintures, des sculptures, des antiques.
Avec des tas d'objets différents, etc.
Absolument. Ouais. Vous voyez les gravures des collections du XVIe, XVIIe siècle. C'est un capharnaüm indescriptible.
Intéressant. 18e siècle, les musées, oui.
Et les cabinets de curiosité, alors, est-ce qu'on peut dire que c'était les ancêtres des musées ? C'était quoi,
exactement ? Absolument, oui. Mais alors là aussi, il y a des différences. C'est-à-dire que la France se sépare à une époque entre les partisans du protestantisme et les partisans du catholicisme. Mmh. Autant les catholiques sont beaux-arts, autant les autres sont nature. Donc chez les uns, les cabinets de curiosité, vous allez voir des peintures et des sculptures. Chez les autres, des animaux empaillés, des coquillages, des pierres ou des choses comme ça.
Ah oui.
Donc, quel est juste le premier, est-ce qu'on sait, lequel est le premier musée qui a été créé ? Musée en tant que la conception qu'on a d'aujourd'hui ?
Alors, la Bible sur l'histoire des musées a été publiée en fin d'année dernière. Donc là, je vous renvoie au premier volume de l'ouvrage de Christophe Pomian qui s'appelle justement l'histoire des musées, qui aura 2 volumes. En fait, c'est très très compliqué parce qu'il faut remplir un certain nombre de critères pour déterminer que c'est un musée. Donc la première collection accessible, ça peut être ça le musée, ça serait fin du 15e siècle, le Capitole à Rome. D'accord. Des musées constitués beaux-arts en France, c'est sous le règne de Louis XVI. Vous voyez, fin du 15e, fin du 18e. Il a fallu tout ce temps-là pour arriver à une conception d'un musée public ouvert au public.
Ah, parce qu'auparavant, c'était quoi ? C'était donc des collections privées ?
C'était des collections d'aristocrates ou des collections religieuses. Et là, c'est un problème, parce que est-ce que des tableaux religieux dans une institution religieuse, ça fait un musée ou pas ? Puisqu'on ne sort pas du contexte...
Vraie question.
Voilà.
Enfin, vu l'art religieux, quand même, on peut les accepter.
Ouais. Ah oui. Et en France, alors, les premiers musées ont vu le jour à quel endroit ?
Ben c'est pareil, il faut aller chercher du côté des établissements religieux. C'est là les premiers endroits où on accepte que les gens viennent regarder ce qui a été créé.
Ça, c'est les gens qui viennent regarder, c'est le plus important. Oui.
Ah oui. Et donc, c'est plutôt en province,
c'est plutôt en province, oui, oui. Ah, les choses commencent en province.
D'accord, ok. Donc le musée d'art tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une création, on peut dire, récente alors.
C'est très récent, c'est très récent. D'accord. Mais vous savez, c'est l'accélération des choses. C'est-à-dire qu'il a fallu 300 ans passer de quelques pièces au Capitole jusqu'au musée du Louvre, et depuis, on est à 27 musées nationaux, beaucoup d'autres choses.
Les musées municipaux, nous n'en comptons pas. Ouais, c'est énorme.
C'est exponentiel, la création d'établissements muséaux.
Alors, Foulque d'Aboville, effectivement, pour pallier à la fermeture des musées, certains établissements ont développé donc des dispositifs numériques. Est-ce que vous-même, vous avez opté pour cette solution ?
Oui, bien sûr, il a fallu très vite réagir à ces fermetures, et on a vu tout un mouvement de grandes institutions qui sortaient des contenus numériques mis à la disposition du grand public. Au sein de Culture Espace, on a réfléchi à ça. Alors, vous savez qu'on a une approche du numérique un peu différente, parce qu'on crée des grands centres d'art numérique, mais qui ont vocation à accueillir du public. Et dans nos musées plus classiques, comme le musée Jacquemart-André, on a conçu une visite virtuelle autour de l'exposition temporaire de Turner, parce que c'est une très belle exposition et qu'on voulait absolument qu'elle soit vue du public. Et donc on a conçu cette visite virtuelle qu'on a mis en ligne gracieusement à destination de notre public.
Ah oui. Mais si le virtuel remplace le présentiel, n'est-ce pas un peu dramatique quand même pour la culture ?
Ah ben, c'est pas que c'est dramatique, ça peut être un complément si vous voulez. Mais moi, je ne crois pas du tout au fait que ça remplace le physique. Hein, ça ne fait peut-être que donner encore plus envie de venir déambuler dans un musée qui, souvent, en plus, est un lieu qui est par lui-même chargé d'histoire. C'est souvent des grandes bâtisses du patrimoine. Donc, on a envie de fouler le sol de ce musée. On a envie de voir les œuvres en vrai. Je crois que ce n'est pas du tout antinomique.
Eh oui. Alors, faut-il réouvrir les musées ? Dans quelles conditions ? Eh bien, on continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Et on va recevoir donc Christophe Dupin, qui est donc adjoint à la culture de la ville de Tours. Et on va en parler aussi avec vous, chers auditeurs de Sud Radio. Appelez tout de suite le 0826-300-300 et prenez la parole dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
L'Espagne avec Goya et Velázquez au mur de son Prado. L'Espagne avait l'âme de Don Quichotte et l'âne de Sancho. Quand tu es né d'un aigle et de Carmen, d'un marin de Colomb et de Chimène, des vignes de l'Andalousie et du sang d'un taureau, Pablo. Paris, c'était Montmartre, Apollinaire et le bateau, la voix. La Célestine bleue, l'Arlequin rose, tes yeux de diamant noir.
Eh oui, oui, c'est grené sous le... Avec la voix de Serge Reggiani, là, l'hommage, l'ode à Pablo Picasso. Et je rappelle que Pablo Picasso et Auguste Rodin, qui ont tous les deux leur musée, bien sûr, leur musée très connu, leur musée parisien, eh bien, ils se sont associés, le musée Picasso et le musée Rodin, pour présenter une exposition qui met en lumière leur génie, qui a lieu en même temps dans ces deux établissements. Écoutez, j'espère que très, très, très vite, on va pouvoir y aller, comme dans tous les musées, pour voir toutes ces expositions magnifiques.
Et oui, cette double exposition, André Bercoff, elle aurait dû démarrer le 9 février. Alors, faut-il réouvrir les musées ?
Bien sûr.
On en débat avec vous, chers auditeurs de Sud Radio, et avec Christophe Dupin, adjoint à la culture de la ville de Tours, qui vient de nous rejoindre au standard de Sud Radio. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Alors, il y a une semaine, avec Emmanuel Denis, le maire de Tours, vous avez demandé à la préfecture d'autoriser la réouverture des musées de votre ville. Vous avez mis en avant le bien-être et la santé de vos habitants, la santé mentale. Avez-vous été entendu ?
Non. Pas encore pour l'instant. Alors, je rappelle, c'était une demande pour ouvrir les musées, les lieux culturels à des personnes en difficulté, c'est-à-dire à des étudiants ou à des habitants qui subissent très douloureusement l'isolement. Et donc, il nous a semblé important que ces lieux culturels puissent bénéficier et que la culture joue pleinement ce rôle pour les personnes les plus en difficulté. Donc, c'était une ouverture à jauge vraiment. Là, c'est même plus des jauges réduites, c'est des petits groupes de 8 personnes que les services sociaux de la ville et les services sociaux de l'université pourraient repérer.
Qui souffrirait particulièrement de l'isolement, c'est ça
un peu. Exactement. Ouais. Parce que c'est une question sanitaire, en fait. C'est une question sanitaire. Mmh. On a besoin, pour ces personnes-là, d'avoir retrouver le contact avec la beauté. Tout à l'heure, l'intervenant parlait de la beauté du monde, de la beauté des œuvres d'art. Eh bien, ça peut soigner, et ça fait du bien. Et puis, ça remet du lien avec les personnes, déjà, ces petits groupes de 8 personnes. Voilà.
Et dans cette spécificité-là, qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On vous a dit non, écoutez, ça s'applique, la règle s'applique à tout le monde et on ne peut pas faire d'exception ? C'est un peu ce qu'on vous a dit ?
Eh bien, c'est ça. Pour l'instant, on ne nous a pas vraiment répondu, en fin de compte. Mmh. Et la seule chose qui bouge, c'est que la préfecture autorise des espaces de coworking dans des lieux. Eh bien, on va considérer, je pense, on a vu avec Monsieur le maire que nous allons... ces petits groupes de 8 vont être des espaces de coworking.
Y compris dans les musées, c'est-à-dire ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ça va être bon pour la santé mentale, la santé morale, pour la poursuite des études, de ces étudiants-là.
Oui. Alors, vous dénoncez, je vous cite, la doctrine d'exception culturelle inversée du gouvernement.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire, cette doctrine d'exception culturelle inversée ? Oui.
En fin de compte, l'exception culturelle, c'est un peu une spécificité française. Hein. Je vous rappelle, c'était une façon de protéger nos biens culturels, nos livres,
chansons, radio, etc.
Nos cinémas, vous savez, le prix fixe du livre, la taxe NC au cinéma, et puis dans les radios, l'obligation de diffuser des artistes français. Et bien, en fin de compte, là, c'est l'inverse. En fait, alors, c'est assez surprenant, c'est vraiment une doctrine... Depuis le début du confinement, rappelez-vous, au tout début, c'était les librairies qui étaient un commerce considéré comme non essentiel.
Exact.
Ensuite, il y a eu l'étape. Alors bon, des musées, des lieux de culture, etc. Effectivement, qui ont été les derniers à réouvrir. Il y a eu l'épisode aussi des bibliothèques qui ne pouvaient plus faire du cliquer, rapporter. Puis finalement, ça s'est ouvert. Et puis là, maintenant, c'est les lieux culturels comme les musées. Enfin, franchement, les musées. Si je prends le cas du musée des Beaux-Arts à Tours, 1500 m², en sa jauge normale, c'est 500 personnes. Donc là, en jauge, protocole sanitaire, on peut recevoir 150 personnes. Mmh. Donc, avec des conditions, les études, je ne sais pas si vous avez parlé de la dernière étude qui a été faite en Allemagne, que les lieux culturels présentent beaucoup moins de risques que n'importe quel autre lieu, que les commerces.
Oui, six fois moins.
Moi, personnellement, je suis enseignant en lycée. Ouais.
Non, mais voilà. c'est vrai qu'il y a eu...
dangereux, effectivement.
Ouais, il y a eu plusieurs études là-dessus, effectivement.
Voilà. Ouais.
Alors, en décembre dernier...
Et donc là, même ce qu'on propose, là, c'est... Ce que l'on propose, vous imaginez, 8 personnes pour 1500 m², on a fait le calcul, on est à une personne pour 180 m² avec des plafonds. Le musée des Beaux-Arts est très, très beau. Hein. Il y a des plafonds de très haute taille. Et il n'a pas été ouvert, il n'a pas eu au public depuis très longtemps.
Vous savez ce qu'il faut faire, Christophe Dupin, je l'ai dit aux autres, il faut faire comme disait Alphonse Allais, il faut mettre les villes à la campagne et les musées dans le désert. Comme ça, peut-être, on a des chances de les ouvrir, je ne sais pas.
Alors justement, vous parliez du musée des Beaux-Arts de la ville en décembre dernier, effectivement, pour dénoncer la fermeture des musées. Vous avez demandé au maire de Tours l'autorisation donc, de mettre en vente tous les tableaux de ce musée. Alors comptez-vous toujours le faire si rien ne bouge ?
C'est iconoclaste, ça. C'était une provocation, ça.
C'était juste de poursuivre le raisonnement par l'absurde la doctrine du gouvernement, puisqu'en fin de compte, on avait dans la ville, on a des galeries de peinture privées, des petites galeries qui sont très sympas, hein, mais toutes petites. Et elles étaient ouvertes, alors que nos grands musées, eux, étaient fermés. Donc c'était effectivement une incohérence. Alors vous me direz, il y a plein d'autres incohérences, mais là, voilà, c'était une incohérence de plus. Et franchement, on a besoin, je ne sais pas vous, mais Moi, je connais des gens qui la nuit, n'en peuvent plus et ils rêvent d'être dans un musée, ils rêvent d'être dans un concert. Donc, il faut quand même laisser, enfin, mettre un calendrier, des échéances. Et puis là, sur les musées, il y a quand même une incompréhension. Donc, effectivement, on sait très bien, je sais très bien qu'il est impossible, heureusement, de vendre des collections publiques. Donc, c'était une petite pointe de... Voilà, c'est un coup de colère. Et,
oui, oui. Et, de temps en temps, il faut provoquer, et c'est bien.
Et vous aviez même annoncé une vente d'araignées au Muséum d'Histoire naturelle de Tours et une vente de photographies de Loire au château de Tours.
Oui, et puis, parce qu'il y a une très belle exposition d'araignées. Alors, les pauvres enfants et habitants de Tours l'ont vu ouverte que 15 jours, mais les araignées sont là. Alors, elles ont le temps, elles sont en train de faire leur nid et de se reproduire, mais évidemment, c'était pour filer, si je puis me permettre, la métaphore de l'absurdité dans le prolongement. Quoi. Voilà. Ah oui.
Merci Christophe Dupin. Non, mais c'est bien, de toute façon, vous savez, si on ne provoque pas un peu, on n'a rien. Et je pense qu'il faut utiliser tous les moyens pour que les princes qui nous gouvernent apprennent un peu à libérer la cage aux oiseaux, comme disait Pierre Perret.
Bah, surtout, c'est une question sanitaire. Enfin, pour nous, c'est vraiment une question sanitaire de mettre de l'art dans la ville. Alors, on demande aussi à la préfecture de pouvoir que des partenaires que l'on a qui veulent organiser des concerts mobiles ou dans la ville puissent pouvoir le faire. Donc là, on sera, nous, en appui à la municipalité pour que c'est au mois d'avril. Et puis, effectivement, sur l'été, on envisage de faire des inattendus. C'est-à-dire un événement culturel où il y aurait des spectacles et des artistes donc dans l'espace public et dehors, et qu'on puisse reprendre le plaisir à écouter et voir les artistes.
Voilà, et puis
dans des très bonnes conditions sanitaires, évidemment.
On est d'accord. Mais enfin, il faudrait que toutes les villes fassent comme Tours et commencent à se libérer. Voilà, c'est le message qui est envoyé.
Oui, merci Christophe Dupin. On va faire un tour au standard de Sud Radio où Daniel de Paris vient de nous rejoindre. Alors bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Daniel. On vous écoute.
Allô ?
Oui, on vous écoute.
Oui, donc sur ce sujet, je voulais intervenir, à savoir que sur le plan sanitaire, si on s'en tient à des règles très strictes,
oui,
et qu'on est tous confinés aux abris, et qu'il y a une fermeture printemps 2020,
ouais,
là, effectivement, il n'y a pas d'ouverture possible des musées. En revanche, si on reste avec un système allégé, l'ouverture des musées, c'est d'une part, sur le plan sanitaire, ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas ça qui fera une flambée en plus ou en moins. Ça, j'en suis convaincu. Je travaille en service de réanimation et je sais pertinemment que ça n'aura aucune incidence dans la mesure où, et le civisme collectif et individuel permet aujourd'hui d'ouvrir la culture, et c'est par ce biais de la culture qu'on va commencer à vivre, à respirer. Si on reste à vouloir laver plus blanc que blanc avec des règles de plus en plus contraignantes, la cocotte minute va sauter. Et la culture, c'est un moyen essentiel pour ne pas que le pointeau de la cocotte minute n'explose.
Tout à fait, Daniel, on est tout à fait d'accord. Fulk d'Aboville, vous en pensez quoi?
Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les protocoles sanitaires sont faciles à faire respecter dans les musées. Il y a un vrai besoin dans la population. Et je dirais qu'il ne faut pas que ça soit un motif d'inquiétude, parce que sans touristes étrangers, avec des restrictions de couvre-feu de circulation telles qu'elles sont actuellement, le redémarrage va être en plus extrêmement progressif et extrêmement lent pour nous. D'où l'urgence de cette réouverture, parce que notre rythme de croisière, il est loin d'être retrouvé, il ne le sera pas du tout. Ça sera une question de mois, voire plus.
Oui. Dominique Lobstein, je m'adresse à l'historien. Est-ce qu'il y a eu déjà, dans l'histoire récente, je veux dire depuis le 16e ou le 18e, est-ce qu'il y a eu un moment où les musées ont été fermés ? Où c'est la première fois? Parce que, à ma connaissance, je ne parle pas qu'il y a eu des bombardements, hein, mais à ma connaissance, il y a eu des couvre-feux, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une époque où les musées ont été fermés en permanence?
Tous les musées, non, je ne pense pas. Beaucoup de musées, oui. Et alors, parfois, sur des modes de fonctionnement particuliers. En 40, on évacue le Louvre. Tout part à Chambord, tout est mis en caisse et tout disparaît. Mais on met d'autres choses à la place, des copies, mais des choses où les gens peuvent venir passer un moment pour oublier dans quelle situation on vit. Donc, il n'y a jamais eu une fermeture globale comme on la connaît actuellement.
C'est ça, oui. C'était, là, c'était pour protéger des œuvres et autres. Absolument. Mais la fermeture globale comme ça, c'est, je crois que c'est une première dans l'histoire.
Je pense, ouais.
Vous travaillez sur quelle exposition actuellement, Dominique Lepstein ?
Eh bien sûr, enfin, j'ai terminé de travailler sur une exposition qui devait ouvrir le 12 février et qui attend ses visiteurs, une exposition au musée Gustave Moreau sur Gustave Moreau, illustrateur des fables de La Fontaine.
Ah, superbe.
Extraordinaire. Il paraît que ça fait 25 ans que vous travaillez sur ce sujet, c'est incroyable. Ben c'est oui. Plus qu'une passion, là.
Parce que c'est une histoire à rebondissement.
Mais il a illustré pour un livre, c'était pour un livre.
Alors,
c'était...
au départ, il y a un commanditaire, c'est surtout ça l'important. Il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Roux qui décide de faire une nouvelle édition des Fables de La Fontaine. Et puis finalement, après s'être adressé à plein d'artistes, il va s'adresser à Gustave Moreau, qui va lui fournir 64 aquarelles. Et donc, pour la première fois depuis 1906, elles vont être présentées. Enfin, elles attendent d'être regardées par le public.
Ouais, extraordinaire. Foulque d'Aboville, vos équipes travaillent actuellement sur quelles expositions ?
Eh bien, écoutez, partout. On a une programmation très riche, puisque on ouvrira dès que possible au musée Jacquemin-André une exposition consacrée à Signac, le néo-impressionnisme. À l'hôtel de Caumont, magnifique hôtel particulier à Aix-en-Provence, on ouvrira au mois de mai, malheureusement, Zhao Houki, un artiste français d'origine chinoise, qui a beaucoup travaillé sur les lumières.
L'hôtel de Caumont, c'est en lui-même une œuvre d'art. Hein.
Ah, c'est absolument. C'est absolument splendide. Et puis, dans nos sites à exposition immersive, donc on a parlé de l'Atelier des Lumières à Paris. On aura une grande programmation autour de Dali et donc de ce maître catalan qui ira des montres molles au visage de Mae West et le tout
ça sur les murs alors.
Ah, sur les murs, sur 3000 mètres carrés de surface de projection, c'est une expérience que j'invite vos auditeurs à faire parce que c'est très très impressionnant, très envoûtant et le tout en musique, sur la musique de Pink Floyd.
Oh, extraordinaire.
Et on le fera dialoguer avec une exposition un peu plus courte autour de Gaudi. Voilà. Les deux se sont influencés.
Les grands catalans.
Hein. Exactement.
Il reste plus que Picasso.
Ouais, exactement.
Et est-ce que vous allez réexposer Klimt ou pas ?
Alors, évidemment, vous comprenez que la programmation a été un peu bouleversée, mais Klimt est une exposition qui a été très appréciée du grand public. On le reprojettera probablement à Paris, mais c'est surtout au Bassin de Lumière à Bordeaux qu'on a cette grande exposition sur Klimt jusqu'au mois de mai. Donc les Bordelais pourront en profiter. Avant qu'on passe à Bordeaux, à Monet, Renoir, Chagall, dans cette base sous-marine qui est absolument formidable. Et puis je vais vite pour cette dernier espace numérique aux Carrières de Lumière, au pied des Baux de Provence. Et vous avez démarré l'émission avec Cézanne. Eh bien, ce sera Cézanne, le maître de la Provence, qui promet une expérience fantastique.
Ces carrières, elles sont exceptionnelles. Ouais, Quand on y est, on ne veut pas les quitter. C'est exceptionnel, André Berkoff.
Oui, mais on les a vues, notamment à...
Au Beau de Provence,
oui. Au Beau de Provence, qui était absolument magnifique. Mais je voudrais juste revenir un peu sur cet aspect dont on n'a pas parlé, je l'ai dit au début, c'est quand même l'extraordinaire engouement, et je vous pose la question à tous les deux, l'extraordinaire engouement, très rapidement, Monsieur Lepstein, qu'est-ce qui fait que vraiment, on disait, oui, les musées, mais maintenant on a justement le numérique, tout ça, on peut voir ça sur ses tablettes et tout, et puis les millions de personnes partout qui se pressent physiquement dans les musées. Je veux dire, c'est vraiment, il y a des expositions qu'on organise, moi je me rappelle au Grand Palais ailleurs, les queues vraiment d'un kilomètre, deux kilomètres, et c'est vrai partout. Ça a toujours existé, cet engouement, enfin depuis que...
Non, c'est très très récent.
C'est récent.
C'est très récent, mais ça tient aussi aux moyens de communication. Aujourd'hui, vous savez quelle exposition il y a à Tokyo ou à Berlin. C'est comme si c'était la porte à côté. Enfin, oui, en temps normal, vous savez ce qui se passe. Et donc, les gens voyagent de plus en plus et voient de plus en plus d'expositions. Et c'est devenu une substance dont on a besoin.
Ouais.
Et
On va à Venise pour la Biennale, on va à Cassel pour la Documenta, voilà, on va à Bâle, etc. etc. Oui. Enfin, ouais.
Et je, s'il fallait donner un point de départ, oui, on montrait dans les années 60 avec l'exposition Toutankhamon au Petit Palais. C'est la première fois qu'on a dépassé 1 million de visiteurs à Paris. Et depuis, en fait, on a toujours été dans cette tentative de dépasser le
record. Ah oui, c'est exceptionnel. Record.
Mais il y avait des queues incroyables à l'époque.
Ah oui. J'ai relevé les chiffres de l'Atelier des Lumières à Paris, c'est 1 400 000 visiteurs par an, Foulque d'Abbeville. Quel succès ces ateliers de lumière ?
Absolument incroyable. L'Atelier des Lumières est arrivé après les carrières de lumière. Mais l'Atelier des Lumières, ça a tout de suite beaucoup plu à notre public, parisien, mais pas que. Hein. On a beaucoup d'étrangers. Et 1 400 000, c'est un chiffre absolument record sur toute l'année, évidemment.
Merci Foulque d'Abbeville et Dominique Labstein d'être venus sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie. Pourquoi est-ce si important de dire « je t'aime » à son partenaire ? Que signifie « j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi, je ne veux pas vivre sans toi » ? Eh bien, réponse à toutes ces questions.
Eh bien, moi, je dis au musée, j'ai envie de te dire « je t'aime, j'ai besoin de toi et cher musée, je ne peux pas vivre sans toi ».
Eh bien, réponse tout de suite sur Sud Radio avec Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute.